Chapitre 34. Tout peut être source d'inspiration. Avec le temps, toute tragédie finit par devenir une comédie. C'est ce qu'on dit sur l'écriture, non? Assis en face de deux inspecteurs dans une pièce étouffante, Théo se demanda avec amertume combien de temps il faudrait avant que les drames de sa vie, la mort de son enfant et la désintégration de son couple, lui semblent drôles. Après tout, cela faisait 15 ans que son fils était mort. Il devrait commencer à trouver ça un peu marrant, non? Tu parles. Quant à ses histoires d'inspiration, il avait du mal à enregistrer quoi que ce soit de pertinent au sujet de ce qui l'entourait. Chaque observation se révélait banale. La salle était petite, avec des murs gris, et il y flottait une odeur d'entreprise, mélange de mauvais café et de plastique neuf. Il n'entendait qu'un bourdonnement insidieux, en dehors de la respiration sifflante de l'inspectrice Chalmers, installée en face. Devant lui, sur la table située entre lui, Chalmers et l'inspecteur Barker, se trouvait un petit couteau dans un sachet transparent, avec un manche en bois noir et une tache sombre sur la lame. Un petit couteau d'office. Son petit couteau d'office, qui n'avait visiblement pas disparu dans le tiroir à couvert. Quand les policiers avaient posé l'ustensile devant lui un instant plus tôt, Théo avait arrêté de respirer, en comprenant que cet épisode ne lui servirait pas de source d'inspiration. Il ne s'agissait pas d'une anecdote qu'il raconterait plus tard en plaisantant à ses amis. D'ailleurs, il faudrait beaucoup, beaucoup de temps avant que tout cela finisse par devenir une comédie. « Est-ce que vous reconnaissez cet objet, Monsieur Meyerson ?» demanda l'inspectrice Chalmers. Théo examina le couteau. Une multitude d'idées lui vinrent à l'esprit, toutes plus stupides les unes que les autres. Il s'entendit émettre un petit bruit. Ce qui n'était pas moins stupide. Personne ne regardait un objet en faisant « Normalement, on disait soit « Oui, je le reconnais », soit « Non, je ne le reconnais pas ». Sauf que dans son cas, la seconde option n'était pas envisageable. Il avait bien compris que si les enquêteurs lui avaient mis le couteau sous les yeux, c'est qu'il savait qu'il serait en mesure de le reconnaître. « Réfléchis, se répéta Théo. Ce qui ne fit que l'irriter, car cela l'empêchait de réfléchir à autre chose qu'au verbe « réfléchir ».« Réfléchis à autre chose que réfléchis, bon sang !» Le couteau lui appartenait et il le savait. Cet interrogatoire ne relevait pas du hasard. Alors c'était terminé, non? C'était fini. La fin du monde tel qu'il le connaissait. Comme dans la chanson de R.E.M. « It's the end of the world as we know it, and I feel fine ». D'ailleurs, étrangement, même la suite du titre lui convenait. Il allait très bien. Bon, très bien était peut-être une exagération, mais en tout cas, il ne se sentait pas aussi mal qu'il l'aurait cru. Peut-être que le dicton disait vrai. En fin de compte, c'est l'espoir qui tue. À présent que l'espoir était anéanti, Théo se sentait mieux. Une question de suspense, songeait-il. Le suspense, voilà le plus angoissant. Hitchcock l'avait bien compris. Théo ne se posait plus de questions sur la suite, désormais. Évidemment, il était encore attristé et sous le choc, mais il éprouvait un certain soulagement. « C'est le mien, » répondit-il doucement, le regard fixé sur le sachet transparent. « Ce couteau m'appartient. »« D'accord, » acquiesça Barker. « Et savez-vous quand vous l'avez vu pour la dernière fois ?» Théo prit une grande inspiration. L'espace d'un instant, il se revit dans son salon avec Irene Barnes. Il revit les dessins de Daniel, les images vulgaires de sa sublime Carla, la scène de la mort de son petit Ben. Il se revit déchirer les pages du carnet avant de les jeter au feu. Il expira lentement. C'est parti. Eh bien, ce devait être le 10 au matin. Le 10 mars ? L'inspecteur Barker lança un coup d'œil subreptice à sa collègue et se pencha sur la table. « Vous voulez dire le matin de la mort de Daniel Sutherland ?» Théo se frotta le front du bout de l'index. « C'est exact, je l'ai jeté. Je comptais le lancer dans le canal, mais j'ai aperçu quelqu'un. J'ai cru apercevoir quelqu'un sur le chemin de halage et, comme je ne voulais pas attirer l'attention, j'ai changé d'avis et j'ai jeté le couteau dans les buissons. » Les policiers échangèrent un regard, plus long cette fois. Barker inclina la tête sur le côté, les lèvres pincées. Vous avez jeté le couteau dans les buissons, le matin du 10 mars. Vous êtes donc en train de dire, Monsieur Meyerson...
Je me suis rendu sur la péniche de Daniel tôt ce matin-là, pendant que ma femme dormait. Je l'ai poignardé. Il y a eu beaucoup de sang, bien sûr, vraiment beaucoup. Je me suis nettoyé dans la cabine, puis je suis parti et j'ai jeté le couteau dans les buissons sur le chemin. Dès que je suis rentré chez moi, je me suis douché. Carla était encore endormie. Je nous ai préparé du café que je lui ai apporté au lit.
L'inspecteur Barker ouvrit la bouche un instant, la referma.
« D'accord, » dit-il enfin.
Il se tourna une nouvelle fois vers sa collègue et Théo crut voir Chalmers secouer imperceptiblement la tête. Mais au point où il en était, il s'imaginait peut-être des choses.
« Monsieur Meyerson, vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne souhaitiez pas vous faire assister d'un avocat pendant cet interrogatoire. Je vous repose la question, au cas où vous auriez changé d'avis. Voulez-vous que nous contactions quelqu'un pour vous ? Nous pouvons également appeler l'avocat commis d'office de garde au poste. »
Théo secoua la tête. Il ne voulait surtout pas qu'un avocat vienne essayer d'arranger la situation, de compliquer ce qui était en réalité assez simple.
« Je m'en sortirai très bien tout seul, merci. »
Barker récita alors les formules de rigueur, précisant que Théo était venu de son propre gré et qu'il avait sciemment refusé de consulter un avocat, bien qu'il ait été averti que cela n'était pas dans son intérêt.
« Monsieur Meyerson, » reprit Barker, qui avait du mal à conserver un ton neutre.
Théo songea que ce devait être un moment excitant pour un enquêteur.
« Si j'ai bien compris, vous venez d'avouer le meurtre de Daniel Sutherland, est-ce bien cela ?»«
Oui, c'est exact. » L'écrivain but une gorgée d'eau et prit une nouvelle inspiration. C'est reparti.
« Ma belle-sœur » commença-t-il, mais il s'interrompit.
C'était le passage le plus difficile, l'explication qui allait le plus lui coûter, celle qu'il ne voulait pas prononcer à voix haute.
Votre belle-sœur ?
Répéta Chalmers, abasourdi. Elle ne faisait plus l'effort de camoufler son ressenti.
Angela Sutherland ? Qu'a-t-elle à voir là-dedans ?
Peu avant sa mort, Angela m'a raconté que mon épouse, que Carla et Daniel entretenaient une liaison.
Une liaison ? Répéta encore Chalmers.
Et Théo acquiesça, les yeux fermés.
Comment cela ?
S'il vous plaît, supplia Théo.
Il se mit à pleurer. Il en fut le premier surpris.
Je ne veux pas vous donner de détails.
Vous voulez dire qu'il existait une relation de nature sexuelle entre Carla et Daniel ? C'est bien cela ?
Théo hocha la tête. Les larmes gouttaient du bout de son nez pour atterrir sur son jean. Cela faisait des années qu'il n'avait pas pleuré, songea-t-il soudain. Il n'avait pas pleuré en s'asseyant à côté de la tombe de son fils lors de ce qui aurait dû être son 18e anniversaire. Et voilà qu'il pleurait dans un poste de police. Et pour ça. Et c'est Angela Sutherland qui vous a parlé de cette liaison ?
Oui, je suis allée la voir environ une semaine avant son décès.
Pouvez-vous nous en dire plus, Monsieur Meyerson, sur ce qui s'est passé ce jour-là ?
Je pense qu'il vaut mieux que tu le vois toi-même, dit Angela à Théo.
Est-ce que tu veux bien me suivre à l'étage ?
Théo s'exécuta et lui emboîta le pas jusque dans le couloir, où il la regarda monter l'escalier en se demandant ce qu'elle pouvait bien avoir à lui montrer là-haut. Des affaires de Daniel, probablement. Peut-être d'autres dessins, des écrits ? Cette idée le révulsa. Il commença à gravir les marches derrière elle. Il imagina la tête qu'elle ferait en lui dévoilant ses découvertes, une expression de pitié teintée d'un soupçon de triomphe, de jubilation même.
« Regarde donc ta parfaite épouse, regarde ce qu'elle fait avec mon fils. »
À quelques marches du sommet, il s'arrêta. Angela l'attendait en l'observant du palier, l'air craintif. Il se rappela comme elle s'était recroquevillée devant lui le jour de la mort de Ben. Il se rappela l'envie brutale qu'il avait eue de l'agripper, de l'étrangler, de lui fracasser le crâne contre le mur. À présent, il ne ressentait rien de tout cela. Il tourna les talons et redescendit au rez-de-chaussée.
Il l'entendit se mettre à pleurer, tandis qu'il ouvrait la porte d'entrée et la refermait derrière lui pour retrouver l'après-midi ensoleillé. Le temps d'allumer une cigarette, et il reprit le chemin de sa maison. Alors qu'il remontait la rue qui menait vers le jardin de l'église Saint-James, il fut submergé par une vague de regrets. À une époque, il ne haïssait pas Angela. D'ailleurs, il l'aimait énormément. À une époque, son cœur faisait un bond quand il l'apercevait. Elle était toujours si drôle, si agréable. Elle avait toujours des choses à raconter. Une époque qui lui paraissait si lointaine désormais. Pouvez-vous nous en dire plus, Monsieur Myerson, sur ce qui s'est passé ce jour-là ? Théo essuya ses larmes du dos de la main. Il ne comptait pas parler de ses regrets à la police. À cet instant, il n'avait aucun intérêt à leur dire qu'à une époque, il avait aimé Angela comme une sœur, comme une amie. Elle m'a dit qu'il se passait quelque chose entre Daniel et ma femme. Nous nous sommes disputés, mais pas... Je ne l'ai pas touchée. J'en avais envie pourtant. J'aurais voulu lui tordre le cou, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas non plus poussée dans l'escalier. À ma connaissance, la mort d'Angela est un accident. À sa connaissance. Et il ne comptait pas non plus raconter à la police que, pour le restant de ses jours, chaque fois qu'il penserait à Angela, ce serait cette image-là qu'il verrait. Angela en larmes sur le palier du premier étage. Il se remémorerait les paroles qu'il avait prononcées juste avant, quand il lui avait reproché sa fainéantise et sa négligence, quand il l'avait traitée de mauvaise mère. Et il se demanderait si c'était les derniers mots qu'elle avait entendus de sa vie. Il se demanderait si, lorsqu'elle avait vacillé en haut des marches, ou qu'elle agonisait au pied de l'escalier, c'était cet éloge funèbre qu'elle avait entendu. Donc, vous vous êtes disputé, vous êtes parti. Est-ce que vous en avez parlé à votre femme ? Est-ce que vous l'avez interrogée sur ce que vous avez dévoilé Angela ?
Non. Il y a des questions dont il vaut mieux ne pas avoir les réponses, ajouta-t-il à voix basse. De toute façon, Angela est décédée peu de temps après cette conversation et je n'allais pas aborder le sujet à ce moment-là. Ma femme était en deuil. Mais j'avais peur que... J'étais sûre que Daniel allait se servir de la mort de sa mère pour essayer de se rapprocher de Carla. Je ne pouvais pas supporter cette idée. Je voulais qu'il disparaisse.
L'inspectrice Chalmers arrêta l'enregistrement, se leva et annonça qu'ils allaient faire une courte pause. Elle proposa à Théo un café, qu'il refusa, mais il demanda une bouteille d'eau, gazeuse si possible. Chalmers répondit qu'elle ferait de son mieux. C'était terminé. Le pire était passé. Puis il réalisa qu'il avait tort. Les journaux. Mon Dieu, les journaux. Qu'est-ce que les gens allaient dire sur Internet, sur les réseaux sociaux ? Bon sang. Théo baissa la tête et pleura, les épaules agitées de sanglots. Ces livres, plus personne ne les achèterait. La seule bonne chose qu'il ait faite de sa vie, en dehors de Ben et de son amour pour Carla, c'était son œuvre, et celle-ci allait se retrouver ternie à jamais, tout comme son nom. On allait retirer ses romans des bibliothèques et des librairies, le faire disparaître. D'accord, Norman Mailer avait poignardé sa femme avec un canif, et William Burroughs avait abattu la sienne. Mais c'était une autre époque, n'est-ce pas ? Les gens étaient devenus tellement intolérants, on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait en toute impunité. Avec la cancel culture, désormais, au moindre faux pas, on était mis au pilori. Le temps que les inspecteurs reviennent avec une bouteille d'Evian, pour l'eau gazeuse, ils repasseraient, Théo s'était repris. Il avait essuyé ses larmes, il s'était mouché et se tenait prêt. Les policiers avaient autre chose à lui montrer, la photographie d'une jeune femme. « Avez-vous déjà vu cette personne, Monsieur Myerson ?» demanda l'inspecteur Barker. « Oui, c'est celle que vous avez inculpée du meurtre. Kilbride, c'est ça ?» demanda-t-il en levant les yeux vers eux. « Et vous ne l'aviez jamais vue avant ?»
Théo réfléchit un instant.
« Eh bien, je ne pourrais pas l'affirmer sous serment, mais je pense qu'il s'agit de la femme que j'ai vue sur le chemin de halage, le matin de la mort de Daniel. Je vous ai dit que je l'avais aperçue de la fenêtre de ma chambre, mais ce n'était pas vrai. En réalité, je crois que je l'ai croisée. Pendant que je me rendais sur le bateau, elle avançait en traînant les pieds ou elle boitait peut-être. J'ai cru qu'elle était ivre. Il y avait des traces sur elle, de la terre ou du sang. Je me suis dit qu'elle avait dû tomber. Je vous en ai parlé la première fois que nous avons discuté, pour vous lancer sur une autre piste.
Une autre piste que vous ?
Demanda Barker. Eh bien oui, évidemment une autre piste que moi. Les policiers échangèrent un énième regard insondable. Ce fut Barker qui reprit la parole.
Seriez-vous surpris d'apprendre qu'on a retrouvé ce couteau, celui dont vous venez de dire qu'il vous appartient et qu'il vous a servi à assassiner Daniel Sutherland, dans l'appartement de la jeune femme de la photo ?
Surpris, c'était le moins qu'on puisse dire. Dans son appartement ? Une terrible idée traversa alors l'esprit de Théo. Venait-il de se sacrifier pour rien ?
« Vous avez retrouvé le couteau dans son appartement ? » répéta-t-il bêtement.
« Elle a dû le ramasser. Elle a dû me voir le jeter. Peut-être que c'est bien elle que j'ai cru voir un peu plus tard. Peut-être d'ailleurs que c'est à ce moment-là que je l'ai vue. »
« Vous venez de nous dire que vous l'aviez croisée à l'allée quand vous vous rendiez sur le bateau, » fit remarquer Chalmers.
« Ça a pu être à un autre moment. Plus tard, par exemple. » Mes souvenirs de cette matinée-là ne sont pas vraiment limpides, vous savez. J'étais extrêmement stressée et émotif. À l'évidence, j'étais perturbée.
Est-ce que vous reconnaissez ceci, Monsieur Meyerson ?
Un autre objet à présent, une écharpe.
Oui, c'est à moi,
acquiesça-t-il. Une belle écharpe, Burberry.
Il releva les yeux vers eux.
Je la portais ce matin-là, je crois que je l'ai perdue à ce moment-là.
« Où pensez-vous l'avoir perdue ?»
interrogea Chalmers. « Je n'en ai pas la moindre idée. Comme je viens de vous le dire, la chronologie des événements n'est pas très claire dans ma tête. Sur le bateau, peut-être ? Ou quelque part sur le chemin ? Je ne sais plus. »
« J'imagine que vous seriez surpris d'apprendre que cette écharpe aussi a été retrouvée dans l'appartement de Laura Kilbride. »«
Ah oui ? Eh bien, si je l'ai laissée tomber au moment où je jetais le couteau... »
Théo soupira. Il était épuisé.
Quelle importance. Je vous l'ai dit, je suis coupable, d'accord ? Je ne sais pas comment cette fille a dégoté mon écharpe.
Mademoiselle Kilbride pense que quelqu'un a essayé de l'incriminer dans cette affaire en déposant l'écharpe et le couteau chez elle. Le coupa Barker.
C'est possible, balbutia Théo. Mais ce quelqu'un, ce n'est pas moi. Premièrement, je ne sais même pas où elle habite. Et deuxièmement, je viens de vous dire que ces objets m'appartiennent. Pourquoi irais-je les déposer chez cette jeune femme avant de vous avouer qu'ils sont à moi ? Ça n'a aucun sens, vous en conviendrez.
Barker secoua la tête. Il avait l'air très mécontent, songea Théo. Pas du tout l'air d'un homme qui venait de résoudre une affaire.
Vous avez raison, ça n'a aucun sens, monsieur Meyerson. Et il y a autre chose,
poursuivit l'inspecteur en se redressant, les coudes sur la table et les doigts en pyramide.
Nous n'avons trouvé qu'une seule empreinte sur le couteau, la vôtre. Un pouce, pour être exact. Mais étant donné qu'il s'agit de votre couteau, cette découverte n'est pas particulièrement étonnante. L'empreinte se situait ici.
Et il désigna un endroit sur le côté du manche, tout proche de la lame.
Ce qui n'est pas tout à fait là où appuie le pouce quand on brandit un couteau pour poignarder quelqu'un. Par contre, c'est là où il se pose naturellement pour d'autres usages. Émincer un oignon, par exemple.
Théo haussa les épaules, dépité.
Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je suis coupable. J'ai tué Daniel Sutherland à cause de sa liaison avec mon ex-femme, Carla. Si vous m'apportez une feuille de papier, j'écrirai ma confession. Je veux bien la signer tout de suite. Maintenant, je souhaite mettre fin à cette discussion si cela ne vous gêne pas. C'est possible ?
Chalmers repoussa abruptement sa chaise en se levant. Elle semblait agacée.
Barker secoua la tête, déçu.
Il ne le croyait pas, comprit Théo. Et cela l'irrita.
Pourquoi ne le croyait-il pas ?
Est-ce qu'il ne le pensait pas capable d'un tel crime ? Il n'avait donc pas l'air d'un homme prêt à tuer par amour, prêt à tuer pour protéger sa famille ?
Eh bien, peu importe, songea Théo, rayonnant de suffisance.
Qu'il le croie ou non, il avait fait son devoir.
Il l'avait sauvée.